Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec le magazine Quoi de Neuf, un magazine consacré à l'actualité régionale, on va dire. Et là, aujourd'hui, on va parler de solidarité internationale dans cette première partie d'émission. Autour du thème un peu Afrique, nos origines, qui est le thème du Festival des Solidarités Internationales qui va démarrer le 14 novembre jusqu'au 22 novembre, où il y aura, dans le cadre de cette 17e édition lilloise, des spectacles, des projections, des conférences, des débats et de nombreux représentants associatifs qui présenteront leurs associations et leurs actions. Aujourd'hui, eh bien, on a invité une association qui devait organiser un événement dans le cadre donc de ce Festival des Solidarités Internationales et qui ne peut pas malheureusement le réaliser, mais qui va quand même parler de son objet, de son travail, de ses actions et de ses réflexions. Donc j'ai le plaisir d'accueillir une association qui s'appelle Amitié Lille Naplouse et qui est représentée par deux personnes qui vont d'ailleurs se présenter. Voilà.
Bonjour, ravi donc d'avoir été invité à cette émission. Alexandre Sini, je suis nouvellement élu vice-président de l'association Amitié Lille Naplouse et je suis adhérent de cette structure depuis environ 2 ans. C'est une association qui a pour but donc de faire vivre le jumelage entre la ville de Lille et la ville de Naplouse, notamment par la mise en place d'actions de coopération et de solidarité internationale, ainsi que de sensibilisation. Voilà.
Geneviève Carré, donc membre également de Amitié Lille Naplouse depuis sa création, depuis 2008. Et je suis membre du CA et on va dire quasiment palestinienne, puisque je vais depuis 11 ans passer 2 à 3 mois à Naplouse.
Donc ce Festival des Solidarités Internationales à Lille prévoyait de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte et ce qui a fait que votre événement n'a pas pu se tenir ?
Oui, alors effectivement, nous devions organiser une conférence relative au thème Afrique-Afrique qui a été adopté par Lille sur cette édition 2020. Et nous avions pour objectif de discuter, donc d'inviter 2 intervenants qui auraient discuté de l'Afrique et de la Palestine, de leur destin croisé. Pas dans une perspective macroscopique et de sociologie des relations internationales, mais plus sur 2 thématiques particulières. L'histoire commune, donc les expériences et les circulations entre Algérie et Palestine d'une part, et d'autre part, ça aurait été l'histoire particulière des Afro-Palestiniens, et plus précisément les Afro-Palestiniens de Jérusalem.
Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, on va peut-être parler de ce thème-là, ou même l'élargir, si vous le voulez bien. Peut-être tout d'abord, à Lille même, est-ce qu'il y a plusieurs associations, de, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça de jumelage, mais de rapprochement entre Lille, voire même la région, et Naplouse, voire même l'ensemble donc, de ce pays, hein, Palestine.
Alors, à ma connaissance, Amitié Lille Naplouse est peut-être la seule association en territoire lillois qui s'occupe particulièrement des relations lillo-naplousiennes, si on peut dire les choses de cette façon. Mais il y a effectivement dans le secteur, et Geneviève connaît mieux peut-être le contexte géographique que moi, mais il y a de nombreuses associations qui sensibilisent sur le sujet israélo-palestinien. Notamment la FPS à Villeneuve-d'Ascq. Il y a des collectifs aussi du type collectif Palestine à Saint-Maurice-Pelvoisin. Enfin, vous avez de nombreuses structures ou microstructures. Après, effectivement, plus précisément sur cette thématique du jumelage, l'Amitié Lille Naplouse, il me semble que nous sommes plutôt seuls dans ce secteur-là.
Sur la métropole de Lille, oui, mais il y a, dans le bassin minier, il y a Avion, qui est une commune qui est en jumelage avec un... On dit un village en Palestine de Kousra, mais le village, il a quand même 6000 habitants. Et donc, il y a des relations fortes qui se sont développées jusqu'à déboucher sur un jumelage récemment.
Alors, à Radio Campus, on parle souvent de la Palestine. Hein. Je pense notamment à l'émission L'heure de le mettre, le soir, le mercredi, justement, à 18h30, à partir de 18h30. Peut-être qu'il y aura un petit focus avec la Palestine. Parfois, il y a même des directs avec la Palestine dans l'émission. Aujourd'hui, on va quand même imaginer que des auditeurs ne connaissent pas la Palestine, même s'ils en entendent parler. Alors tout d'abord, expliquer un petit peu où est la Palestine, son historique, ses problématiques, et après, ce qu'on en entend dans les médias, notamment en ce moment, et voir comment vous remettez éventuellement ça en phase avec les réalités que vous connaissez.
Oui. Donc alors, la Palestine est un territoire occupé depuis 1948, et ce qu'on appelle la Nakba, le grand exil, si vous voulez, des Palestiniens. Il se situe au Proche-Orient. Et il est divisé en deux parties, donc une partie qui est vraiment Gaza, et l'autre partie qui est appelée la Cisjordanie, le Proche-Orient, donc vraiment aux frontières au sud de l'Égypte et au nord du Liban. Et vous avez aussi la Jordanie et la Syrie qui sont sur le côté est de la frontière de la Cisjordanie, typiquement. Le pays le plus limitrophe, ça va être Israël. Et ce contexte particulier a connu donc depuis la Nakba, donc 1948, de nombreuses péripéties, une histoire commune entre notamment l'armée israélienne et les Palestiniens, qui sont la guerre des six jours de 67. Ensuite, il y a eu la guerre du Kippour, puis plus récemment les différentes guerres de type qu'on peut pas qualifier de guerre, mais moi, que je considère comme étant plutôt une agression de l'armée israélienne à mon nom propre, les opérations qui ont été appelées bordures protectrices et plomb durci pour les plus récentes. Pour l'historique, donc, il y a eu cette Nakba en 1948, ces différentes guerres, et depuis lors, il y a eu un morcellement du territoire palestinien et une occupation de plus en plus stricte par l'armée israélienne de ces territoires occupés. Si on le met en perspective avec l'actualité récente, c'est notamment l'alliance du gouvernement israélien entre Gantz et Netanyahou qui a affirmé avant cet été vouloir annexer près du tiers, voire un peu plus, de la Cisjordanie occupée, bien évidemment avec le soutien diplomatique des États-Unis. Ça n'a pas encore été fait. Mais en tout cas, c'est un des projets qui est en cours et bien évidemment pour lequel la plupart des Palestiniens, même l'ensemble dans leur majorité, l'unanimité des Palestiniens est opposée. Geneviève aussi peut en parler. Effectivement, comme elle y va régulièrement et depuis 11 ans, elle pourra parler plus précisément du contexte au niveau local.
Je voudrais revenir un peu sur le projet d'annexion de Netanyahou-Trump qui a été... disons officiellement abandonné suite à des accords entre Netanyahou, entre Israël et les Émirats arabes. Et en fait, l'annexion n'est absolument pas reportée. Elle se fait de façon accélérée et à bas bruit pour une raison simple, c'est que avec l'épidémie de Covid, il est devenu extrêmement difficile à des internationaux de se trouver en Palestine. Et donc, j'ai rencontré hier un responsable de Première Urgence Internationale, PUI, qui a son siège à Ramallah. Et il disait qu'effectivement, l'annexion actuellement allait extrêmement bon train et qu'il était stupéfait d'entendre les diplomates français qui s'étaient réjouis que l'on ait renoncé à l'annexion. Il dit il n'y a absolument pas de renoncement, elle se fait très rapidement. Et de plus, la période de la cueillette des olives vient de commencer. C'est une période qui permet à beaucoup d'internationaux d'assister les paysans palestiniens et de les protéger contre les colons, ce qui n'est pas possible cette année. Et donc les colons s'en donnent à cœur joie. À Naplouse, la semaine dernière, il y a eu encore 30 oliviers arrachés. Et la situation est vraiment très très difficile, compliquée encore par le Covid, parce qu'effectivement... On n'entend plus parler de la Palestine, on n'en parle plus pratiquement.
Donc votre association, a priori, elle parle aussi et peut-être surtout de Naplouse. Oui. Est-ce qu'on peut situer cette ville et expliquer quel est son cadre et comment elle fonctionne, comment elle vit actuellement ?
Alors, c'est une ville de 200 000 habitants, à peu près comme Lille, qui est située dans un défilé entre deux montagnes de à peu près 900 mètres d'altitude. Elle est relativement au nord, elle est au-delà de Ramallah. Et c'est une ville universitaire, avec une université qui ne ferait pas lire nos universités. Et elle vit difficilement, puisque elle a été, lors de la deuxième intifada en 2003, elle a été l'objet d'un couvre-feu qui a duré longtemps, et l'armée d'occupation a pratiquement éradiqué l'opposition. Ça a été extrêmement difficile. Et là, la population survit avec beaucoup de petits artisans, de petits commerçants. Et là, avec le Covid actuellement, la situation est vraiment, vraiment catastrophique. J'ai eu les chiffres il y a 3 jours, il y avait 3600 cas de Covid à Naplouse et 44 décès. Et les universités fonctionnent via Internet. Tous les rassemblements sont interdits. Les mariages, les réceptions, tout est interdit, mais ils ont lieu. Disons que l'épidémie n'a pas été tellement prise au sérieux au départ. Les Palestiniens ont pensé que c'était une ruse de l'occupant pour pouvoir procéder à l'annexion sans qu'ils puissent bouger. Et donc, effectivement, pas de port de masque, réunion familiale, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'épidémie est devenue très, très sérieuse. Et sur le plan économique, c'est très grave. D'autre part, ça fait 6 mois, je crois, que les fonctionnaires ne reçoivent que la moitié de leur salaire. Donc, la situation est très, très difficile. Et tout ça dans le silence international absolu.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Donc, dans ce cadre-là, effectivement, dans des conditions habituelles, quand vous allez à Naplouse, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y allez, par quelle voie, on va dire, et qu'est-ce qu'il vous faut comme autorisation?
Alors, pour des Français, c'est très facile d'y aller. On prend un billet d'avion et on arrive à l'aéroport Ben Gurion, aéroport qui est strictement interdit aux Palestiniens. Même ceux qui habitent Jérusalem ou ceux qui habitent tout près de Tel Aviv.
Donc en Israël.
Oui, ils sont. On est obligé de passer par Israël pour aller en Palestine. Et quand nous arrivons à l'aéroport Ben Gurion, c'est là que l'on nous délivre ou pas un visa. Donc il arrive assez souvent qu'il y ait des interrogatoires à l'arrivée. Bon, comme il y en a aussi à Paris, hein. Mais la suspicion est quand même très forte à Ben Gurion. Certaines personnes, particulièrement si elles sont jeunes, si elles sont un peu typées, si elles ont un peu des traits qu'on va dire arabes, ils peuvent avoir 5, 6, 7 heures d'interrogatoire. Moi, personnellement, vu mon âge et ma tête bien caucasienne, je n'ai pratiquement pas de problème. Surtout que, maintenant, ils voient bien que j'y vais tous les ans, donc il n'y a pas de problème.
Donc, si je reprends un article de Libération de 2004, c'est vieux, hein, qui explique le mouvement palestinien, de qui il est constitué. Alors, on a Yasser Arafat qui avait la présidence, une autorité palestinienne, hein, qui était chef de l'Organisation de Libération de la Palestine et chef du Fatah. Donc, dans l'ensemble de ce qui est indiqué comme force en présence, il y a l'autorité palestinienne, il y a l'OLP, le Fatah, le Hamas et le djihad islamique. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ces composantes-là...
Ah oui, ça c'était 2004.
Oui,
mais il y a eu des élections en 2006. Des élections avec des observateurs internationaux. Il y avait des Lillois qui y étaient comme observateurs. Tout le monde a témoigné que les élections avaient été tout à fait régulières. Tout s'était très bien passé. Malheureusement, les Palestiniens n'ont pas voté comme les Occidentaux l'auraient souhaité, puisque c'est le Hamas qui a eu la majorité. Et ça s'est très très mal passé ensuite. Donc
on peut parler peut-être du Hamas, hein, si vous voulez.
Alors il faut savoir que le Hamas a été porté au pouvoir à Gaza, plus précisément. Le Hamas a été porté au pouvoir à Gaza, donc effectivement c'était en 2005-2006. Sinon, le chef de l'autorité palestinienne, c'est Mahmoud Abbas, qui lui est plutôt du Fatah. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi dans les médias des accords qui doivent être passés entre Fatah et Hamas, parce que Hamas historiquement ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, ce qui est le contraire pour le Fatah. Quoi qu'il en soit, effectivement, donc, l'autorité palestinienne en tant que telle, le chef de l'autorité palestinienne, c'est Mahmoud Abbas qui est du Fatah, et le chef, si vous voulez, si on peut parler comme ça, mais l'autorité compétente à Gaza, c'est le Hamas qui, comme l'a précisé Geneviève, a été élu démocratiquement et aucune interférence ou aucune irrégularité n'avait été décelée au moment des élections par les observateurs internationaux, effectivement.
Voilà. Donc là, dans le cadre de votre association, l'objet d'échanger, donc, en quoi consistent ces échanges avec la population de la ville, de Naplouse?
Alors, c'est dans le cadre du jumelage de Lille-Naplouse. La ville de Lille est jumelée avec Naplouse depuis 1998. Donc, c'est en 2008 que des Lillois se sont rendus, dans le cadre du jumelage, avec la municipalité, se sont rendus à Naplouse. Et puis, on pensait que ça serait peut-être bien de développer un jumelage que l'on appelle, nous-mêmes maintenant, c'est le sous-titre de notre association, un jumelage citoyen. C'est-à-dire, évidemment, d'administration à administration, de mairie à mairie, ça se fait dans toutes les communes qui sont jumelées. Et donc, nous avons rencontré des associations, et particulièrement une à Naplouse qui s'appelle Project Hope, qui est une association palestinienne sur place. Et on a décidé, effectivement, de travailler avec eux sur un plan, citoyen. C'est-à-dire, régulièrement, il y a depuis que notre association existe, il y a des Lillois qui se rendent en Palestine pour se rendre compte de la situation, pour essayer de comprendre ce qu'il en est, et surtout ce que nous demandent les Palestiniens pour témoigner. Parce qu'on peut lire tout ce qu'on veut sur la Palestine, tant qu'on n'y est pas allé, on ne se rend pas bien compte de ce qu'il en est. Donc très régulièrement, nous emmenons des personnes. L'année dernière, à cette époque-ci, il y avait 10 Lillois qui allaient, pour la plupart d'entre eux, pour la première fois en Palestine. On emmène des gens. On a des collaborations culturelle également. L'association Project Hope à Naplouse organise des cours d'initiation aux Français. Donc, personnellement, par exemple, depuis 11 ans que j'y vais, je donne des cours de français, soit des cours d'initiation aux Français, soit des cours de conversation, parce qu'il y a aussi pas mal de Palestiniens qui ont fait leurs études en France, qui sont relativement francophones, mais qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas l'occasion de pratiquer. Je pense particulièrement à Youssef, qui est professeur de géographie, qui a 45 ans. Et le Project Hope lui donne l'occasion, une ou deux fois par semaine, d'avoir des cours, entre guillemets, de conversation française, où on parle en français, où on peut s'exprimer sur la situation, tant en France qu'en Palestine. C'est une coopération, on va dire, socioculturelle, on peut dire ça, qui permet de nouer des relations cordiales, personnelles, avec des Palestiniens. Il y a aussi beaucoup de Palestiniens de Naplouse qui sont venus en France, à Lille, en particulier, je ne sais pas, il y en a au moins 4, 5, qui ont fait des études de français à l'université à Naplouse et qui ont sollicité un poste d'assistant d'arabe. Donc, ils l'ont obtenu, assistant d'arabe à Federbe, Fénelon, il y en avait à Roubaix également. Donc, ça leur permet à eux, et c'est grâce au jumelage, parce que ces étudiants qui ont étudié le français à l'université à Naplouse travaillaient comme bénévoles à Project Hope pour être nos traducteurs. Par exemple, moi, j'allais faire cours de français à des gamins ou à des personnes plus âgées. Je ne parle pas arabe. Très, 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 très peu. Et donc, j'avais toujours un Palestinien qui étudiait le français, qui faisait la traduction et qui, en même temps, lui, progressait énormément. Et ça lui donnait... Nous étions aussi une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur la France. Ça leur donnait envie d'approfondir. Et donc, un certain nombre sont venus poursuivre leur... D'abord assistant d'arabe et ensuite ils poursuivaient leurs études à Lille.
On a eu un vice-président de l'université de Lille qui était palestinien.
Nabil, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Donc peut-être qu'il aurait aimé aussi participer à cette discussion. Là, on va peut-être rappeler que quand il y a un jumelage entre villes, c'est assez codifié. On va dire qu'il y a des règles qui sont précisées dans tout ce qui concerne les jumelages. C'est oui, officiel.
C'est pour ça que l'avantage d'avoir créé une association nous donne... on est bien évidemment soutenu par, dans le cadre du jumelage par la mairie de Lille qui nous aide beaucoup. Mais ça nous donne une...
autonomie.
Une grande autonomie, oui, bien sûr.
Faut dire aussi qu'entre autres, nous organisons aussi, comme vous l'avez précisé, vous demandez des événements culturels en début d'année, avant que le confinement soit décrété. Donc c'était sur la période fin janvier, début février. On a organisé un festival de la gastronomie palestinienne en faisant venir de Palestine, donc un chef cuisinier, qui est chef cuisinier d'un hôtel à Naplouse, et aussi chef cuisinier dans un hôpital à Naplouse. Et on a organisé différents ateliers sur un peu l'ensemble de la métropole européenne de Lille. Et qui, cet événement en soi a été un succès, puisqu'il y a eu à peu près 250 participants à ces différents ateliers. Nous avons créé des partenariats avec la Fabrique du Sud, avec l'association L'Essence du Goût, avec l'école hôtelière de Lille aussi.
En général, tout ce qui tourne autour de la nourriture, c'est quelque chose d'assez...
C'est fondamental, la nourriture.
C'est une bonne porte d'entrée, de
absolument.
Communication aussi.
Absolument.
Hein. On voit bien quand on met des plats sur Facebook ou autre, il y a des likes, peut-être plus que dans des sujets plus graves.
Mais là, en plus, pour pouvoir participer, partager, et le chef cuisinier s'est initié aussi à la cuisine française, c'était formidable. C'était
sur le travail du chou, avec justement, en partenariat avec l'association L'Essence du Goût, il a appris à travailler le chou. Enfin, c'était un vrai échange de bons procédés culturels. Et c'était, comme vous le dites, une vraie porte ouverte vers la sensibilisation, mais via la culture et la gastronomie, est un bon vecteur de sensibilisation, effectivement.
Voilà. Donc, il y a aussi des produits spécifiques. Hein. Moi, je vois passer, pas loin d'ici, hein, parfois de l'huile d'olive, évidemment, des savons d'Alep. C'est un peu
alors,
spécialité.
Non, le savon d'Alep. Non,
je vois passer ça.
En Syrie, Alep.
Le savon d'Alep, c'est quasiment le concurrent du savon de Naplouse. Alors, parce que les deux grandes villes productrices de savon au Proche-Orient, c'est Alep et c'est Naplouse. Voilà. Alors, Alep s'est mieux débrouillé jusqu'à ce qu'il soit bombardé sur un plan commercial. Les Palestiniens conviennent qu'ils se débrouillent mieux, mais ils avaient plus de facilité parce que Naplouse étant une ville occupée, hein, parce que même si elle n'est pas occupée actuellement, comme disent les gens de Naplouse, bon, on est libre, le jour c'est pour nous, Naplouse, et la nuit c'est pour les Israéliens, parce qu'ils débarquent quand même. Hein. Et sur les deux montagnes, il y a des bases militaires israéliennes, donc ils sont coincés. Et il est extrêmement difficile pour les Palestiniens d'exporter leurs produits. Donc Naplouse n'a pas... Naplouse a une grande tradition en savon, mais n'a pas pu développer. Les Napoulsis disent que le savon de Marseille, c'est eux.
Bah, c'est vrai qu'à Marseille, on ne fait pas beaucoup de savon en plus. Hein.
Non, mais ils disent que la recette du savon, c'est les Napoulsis qui l'ont donné. On va dire le Proche-Orient, parce que Alep. Alors, moi, je me demandais si, avec la catastrophe à Alep, Naplouse n'allait pas tirer son épingle du jeu. N'allait pas développer sa production de savon, elle est déjà importante. Hein, enfin, elle est déjà importante. Lorsque Israël a mis le couvre-feu en 2003 à Naplouse, ils ont détruit 9 savonneries. Il y a à Naplouse un endroit qui est un parking aujourd'hui, que j'appelle le Ground Zero. Il y avait des savonneries et les Israéliens ont prévenu les riverains qu'il fallait quitter leur maison parce qu'ils allaient bombarder. Ils ont bombardé, il n'y a plus rien du tout. Naplouse exporte beaucoup ses produits, ses savons, mais en Turquie.
D'accord.
Essentiellement en Turquie. Donc, quand on dit le savon d'Alep, c'est vraiment le savon d'Alep. Il n'y a pas de doute. Et sa particularité, c'est que c'est huile d'olive et feuilles de laurier. Alors que Naplouse, non, c'est l'huile d'olive. Enfin, maintenant, il y a quand même un artisanat qui se développe avec
Il y a des variantes. Oui.
Des variantes extrêmement importantes et qui sont importées en France, comme l'huile d'olive, comme beaucoup d'autres produits, par une organisation qui s'appelle le Philistin, qui siège près de Rodez et qui a développé un partenariat extrêmement important avec des producteurs palestiniens. Et l'huile d'olive que l'on trouve ici, toute l'huile d'olive palestinienne que l'on trouve en France, elle est importée par le Philistin.
Voilà, comme c'est eux que je vois passer régulièrement.
Oui. Ah ouais.
Donc, est-ce que l'économie dépasse ce cadre de ces deux produits, on va dire. Est-ce qu'il y a, il y a beaucoup d'activités économiques à Naplouse qu'on ne connaît pas, nous ?
Beaucoup d'artisanat. Oui. C'est bourré de petites échoppes. Où on a des tailleurs, on travaille le métal, on travaille...
On travaille du verre aussi, dans certaines... Mais après, c'était plus à l'université quand j'y suis allé.
Oui, le verre, c'est quand même plus ébron.
C'est un peu plus ébron, oui. Mais j'en ai vu certains aussi.
Alors, il y a quand même une zone industrielle. Il y a une zone industrielle près de Balata. Et par exemple, j'ai pour mémoire, une fois j'y suis passée, j'ai fait toute la zone industrielle à pied parce que ça sentait tellement bon. Le café à la cardamome. Donc, il y a des fabriques de torréfaction de café. Il y a des entreprises de médicaments, beaucoup aussi. Ça commence à se développer un petit peu, mais c'est toujours le problème de la circulation. Mm-hmm. À partir du moment où vous êtes occupé, vous avez des checkpoints quand ils ne sont pas volants, les camions sont contrôlés, c'est très, très, très difficile.
Ça reste une économie et un commerce contraint, en fait, par l'occupation et par les annexions qui sont monnaie courante.
Si on prend un petit peu l'agriculture, l'élevage, c'est quelque chose de possible là-bas
Alors là, c'est très, très... Alors, autour de Naplouse, il y a énormément de villages avec des paysans, des fermiers. Mais le problème, c'est la colonisation. Mmh. Et autour de Naplouse, les colonies poussent... Enfin, c'est des métastases. Hein, Moi, j'ai vu la progression en 11 ans. C'est quelque chose d'effrayant. C'est devenu un gruyère, la Palestine. Il y a des petits îlots et ils sont menacés tout le temps. Il y a des attaques de colons. J'ai vu la dernière fois, je l'ai vu l'année dernière, une attaque de colons. Ils sont venus, ils étaient armés, ils avaient les pierres. Il y avait les soldats à côté d'eux qui nous ont envoyé des grenades lacrymogènes alors que nous étions agressés. Donc, c'est très, très difficile de développer. Mais ils le font, hein.
Est-ce qu'il y a une perméabilité dans les frontières ? Est-ce qu'il y a des Palestiniens qui vont travailler en Israël ?
Absolument. Beaucoup. Et je me posais justement la question. Avec l'épidémie de Covid, le taux de chômage est monté à 25% en Israël. C'est énorme. Et pourtant, les travailleurs palestiniens continuent à y aller. Donc, je me dis, dans quelles conditions doivent-ils travailler ? Parce qu'il y a un tel chômage qu'il y a quand même encore du travail pour eux. Ça veut donc dire travail
la pression.
Qui doit être extrêmement difficile. Mmh. Et c'est vital pour eux. C'est vital à tel point que quand ils passent le checkpoint de Qalqilia, qui est un checkpoint important pour aller travailler en Israël, au début de l'épidémie, quand ils rentraient du travail... Il faut voir le checkpoint pour aller passer. Ils sont contrôlés tous les jours. On les connaît, mais ils sont contrôlés quand même tous les jours. Quand ils revenaient, la police palestinienne les attendait pour vérifier s'ils avaient été contaminés ou pas. Or, ils se sauvaient, les travailleurs palestiniens, parce qu'ils disaient « on préfère mourir du Covid que notre famille meure de faim ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Beaucoup de travailleurs palestiniens, par exemple, ceux qui ne travaillent pas en Israël, sont des journaliers. C'est au jour le jour. Et là, actuellement, j'ai eu les informations il y a 3 jours, il n'y a plus de travail.
Alors là, on est à une période très particulière. On ne sait pas du tout l'issue, d'ailleurs, de cette période. Donc, effectivement, ça interroge. Donc, est-ce qu'il y a des solidarités internationales qui se mettent en place ? Et déjà... On voit bien, même en France, les problèmes que ça pose et que ça risque de poser encore davantage dans quelques mois. Est-ce que cette tension globale, on va dire, anesthésie d'une certaine manière les capacités et les volontés de travailler ensemble, de partager, par exemple ?
Alors moi, je dirais d'abord qu'en Palestine, c'est la solidarité intérieure entre les Palestiniens, qui est très, très forte. Par exemple, le village d'Awarta, où il y a quelques milliers d'habitants, quand même, à côté de Naplouse, des chefs de famille se sont retrouvés sans travail, sans rien. Dès le début de l'épidémie, on organisait des paniers d'alimentation pour nourrir. Et actuellement, encore à Naplouse, forcément, si la solidarité ne fonctionne pas, on n'y arrivera pas. Maintenant, la solidarité internationale...
Elle existe, mais de façon dématérialisée, ça reste en visio, etc. Donc on a toujours des contacts, notamment avec le président de Project Hope, etc. La Mutuelle de Naplouse a mis en place une cagnotte pour soutenir justement Project Hope au courant de l'été. Donc il y a toujours des actions de solidarité, mais elles sont beaucoup moins concrètes qu'elles l'étaient auparavant. Notamment, on ne peut plus, comme le précisait Geneviève au début de l'émission, on ne peut plus aller en Palestine pour aider à la cueillette des olives, qui est un moment très important, notamment dans l'agriculture palestinienne. Et très important aussi que des personnes étrangères viennent leur prêter assistance, parce que ça limite, voire même réduit, les agressions des colons israéliens. Mmh.
Donc, il y a une visibilité, on va dire.
C'est-à-dire, il y a 10 ans, je me souviens, il y a même plus que ça, parce que c'était en 2004, je suis allée cueillir les olives dans un village, et nous étions à Yanoun, nous étions une quinzaine d'internationaux et une trentaine d'Israéliens, qui était conduit par l'association Les Rabbins pour les Droits de l'Homme. Et là, on était sûr qu'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas agressé par les colons. Il y a 3-4 ans, j'étais à Kousra pour cueillir les olives, et le président Ari Kasherman, le président des Rabbins pour les Droits de l'Homme, devait nous rejoindre. Et il ne nous a pas rejoints parce qu'il était dans un village voisin en train de cueillir avec des Palestiniens. Il a été agressé par un colon. C'est-à-dire que maintenant, il n'hésite plus du tout. Et il a été agressé très fortement. Et évidemment, il a porté plainte. Et c'est la seule fois où un colon qui a agressé un cueilleur d'olives a été condamné parce qu'il avait agressé un Israélien, en fait. Et sinon, ils peuvent agresser les Palestiniens, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, et l'année dernière, il y a 2 ans, il y a un cueilleur britannique qui s'est fait tabasser en premier. C'est-à-dire que maintenant, les colons, à la limite, attaquent en premier les internationaux, les Israéliens qui viennent aider et les internationaux. Parce qu'ils savent qu'on est des témoins, et donc il faut nous dissuader de venir, il faut nous faire peur.
Donc, on peut peut-être mentionner l'existence d'une association qui s'appelle l'Union juive française pour la paix. Je ne sais pas si ça vous parle.
Bien sûr.
Qui a une conception un peu différente quand même des Israéliens habituels, des relations et du positionnement, on va dire, par rapport à la Palestine, Israël-Palestine.
Alors, je voudrais saluer la mémoire de Rudolf Kouch, qui était un très, 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 très bon ami de Nabil, ancien vice-président de l'université. Donc, l'Union juive pour la paix est antisioniste et ne combat contre l'occupation, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et...
Donc, ça fait partie des voies atypiques, quand même. Hein.
Ce qui est terrible, c'est que ça devrait être la voie normale.
Alors, qu'est-ce qui fait, justement, que... Je ne parle pas de la puissance de dissuasion d'Israël, hein, qui est un pays puissant, pas seulement j'allais dire en France, etc., mais aussi aux États-Unis, qui arrive à déterminer peut-être des destins de président parfois, hein, aider peut-être aussi.
Je sais pas. Oui, enfin, moi je pense que c'est enfin, aux États-Unis, les chrétiens évangéliques évangélistes aussi, sont assez forts. Parce qu'il y a. Il y a aux États-Unis, j'ai oublié son nom, mais il y a une organisation d'Américains juifs qui est absolument contre Trump et qui est contre l'occupation également. Mm-hmm. Ça, on n'en parle jamais. Mais les plus forts soutiens d'Israël aux États-Unis, ce sont les chrétiens évangélistes.
Mm-hmm. Bon, qu'on retrouve pas mal aussi en France. Ils occupent pas mal les espaces publics. Dans les petites villes, maintenant.
Les chrétiens évangélistes ?
Absolument.
Oh là là, mon Dieu.
Si, c'est vrai. Je vois à Lens, par exemple, ils ont plusieurs lieux bon, qui sont parfois sous des apparences de café, de choses comme ça, où après, ils s'organisent et font leurs rencontres, leurs réunions. Bon, ils ont le droit, ce n'est pas le problème. Hein. Mais je veux dire, on les sent quand même organiser, sinon quadriller les villes.
Il y a aussi, juste pour revenir à ce que vous disiez, en Israël, une grosse structure israélienne, l'association Betselem, qui documente les violations des droits humains du peuple palestinien par l'armée israélienne ou les colons, et, qui est une association purement israélienne. Donc il y a différentes associations, que ce soit en Israël même ou en France, celle dont vous avez parlé, ou aux États-Unis, qui prône une vision de paix qui est équivalente à celle d'Amitié Lina Plouze. Mm-hmm. Il y en a de nombreuses, effectivement.
Je dois ajouter que Betselem a distribué beaucoup de caméras aux Palestiniens pour pouvoir filmer. Par exemple, quand on a parlé de l'intifada qu'on a appelée des couteaux, Betselem a publié beaucoup de vidéos montrant comment l'armée d'occupation, par exemple, tuait un Palestinien et déposait le couteau après. Ça a été vu. Alors, Betselem est très, très mal vu, évidemment, par Netanyahou et
consorts. Oui, par les autorités.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc, on a deux incertitudes, on va dire, deux paramètres, si on peut appeler ça comme ça. Un c'est l'évolution de cette colonisation, qui est encore en marche, vous le signaliez. Et puis, il y a cette affaire de Covid, dont on ne voit pas la fin, et dont on voit même le retour. Donc, deux grosses inquiétude pour tout le monde, hein, pas seulement les Palestiniens, on va dire, hein, et aussi les mouvements actuels qui donnent des coups de couteau dans la paix internationale, la paix mondiale et la paix civile. Hein. Comment vous positionnez sur ce qu'on a vu récemment, ce qu'on a, comme ce professeur qui s'est fait tuer? Comment vous réagissez à ça?
Ah ben c'est l'horreur absolue.
Ah oui, avec dégoût, totalement. Enfin, c'est horrible ce qui est arrivé au professeur. C'est une horreur absolue.
Surtout que j'étais professeur, ça me touche de toute façon en tant que citoyenne au plus profond. Et c'est absolument abominable. Et je pense que nous vivons des temps vraiment sombres, vraiment, vraiment terribles. Et j'espère que nous surmonterons tout cela. Mais de mon point de vue, la période est assez dangereuse.
Donc là, effectivement, on voit bien que le gouvernement essaie de trouver des mesures. Je ne sais pas si elles seront efficaces. En tout cas, il a imposé un certain nombre de... Là, par exemple, fermer une mosquée, il soupçonne...
Oui, je peux me permettre... on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, qui est un de nos premiers clients d'armes. Et l'Arabie Saoudite, quand même, qui... soutient un islam très fondamentaliste. C'est très curieux d'annoncer des mesures. On va fermer une mosquée, on va faire ceci, on va faire cela. Mais un voile très, très puissant sur nos rapports très troubles avec un islam fondamentaliste. Je pose la question.
Mais c'est une très bonne question. Donc là, pour l'instant, on a des actions visibles, on va dire. Est-ce que, en dessous de tout cet effet, peut-être, de surface, il y a des choses profondes qui essaieraient de solutionner le problème au fond, par exemple, dans la prise de conscience du positionnement de chacun par rapport à ce type de problème pour vivre une société harmonieuse, en France au moins?
Je ne suis pas qualifiée pour, pour répondre.
Oui, pareil. Mais effectivement, après ce qui s'est passé, c'est horrible. Et il faut bien distinguer, en fait, par exemple, nous, notre action qui consiste à sensibiliser sur, d'un point de vue international, sur une occupation et une volonté d'annexion qui est officielle, qui a été officialisée avant cet été, et ces dérives identitaires et ces horreurs qui sont commises au nom d'une religion qui en soi est dévouée quand ces horreurs sont commises. Comme Geneviève, j'ai été horrifié par ce qui s'est passé, comme par ce qui s'est passé lors des attentats de 2015, etc. Mais on ne saurait faire un parallèle entre le soutien à une population qui est soumise à une occupation et à des brimades quotidiennes et ce qui se passe ici en France. Après, je ne suis pas qualifié, sociologiquement parlant, pour discuter effectivement de ce qui se passe sur le territoire français. En tant que citoyen, je trouve que c'est horrible et j'imagine que nos autorités sont les plus compétentes pour prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce type d'horreur se reproduise.
Ben voilà,
je pense que ça peut faire beaucoup de mal aux Palestiniens. Mmh. Beaucoup de mal. Ça leur fait mal et ça peut leur faire du mal. Je vais prendre un exemple. Lors de l'attentat du Bataclan, j'étais à Jérusalem et je ne savais pas qu'il y avait eu l'attentat. Et j'étais le 14 novembre dans la vieille ville à Jérusalem avec des amis et les Palestiniens, nous entendant parler français, nous interpellaient en nous disant qu'ils étaient catastrophés, qu'ils nous soutenaient, et nous ne comprenions pas, nous ne savions pas de quoi ils parlaient. Et c'était eux qui disaient, mais vous savez, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir. Ils étaient catastrophés. Et je crains que, comme à chaque fois, ils en paient le prix encore.
Je pense que actuellement la crainte qu'on peut avoir, c'est un peu l'enveniment des situations et puis la montée d'extrémisme de part et d'autre, non ?
Bah, c'est déjà, je veux dire,
ouais,
cet événement, c'est déjà une manifestation.
D'accord, c'est un événement qui est très localisé avec, on va dire, peut-être quelques personnes, mais ça pourrait être plus important, on ne sait pas comment les choses pourraient évoluer. Je veux dire que
qui
là,
sait.
Effectivement, c'est dramatique. Il pourrait éventuellement y avoir des choses encore plus dramatiques. Donc, comment on se prépare à ça? Comment on essaye d'anticiper pour éviter des situations aussi graves et qui pourraient s'étendre?
Si je le savais.
Voilà. Donc, la question est aux auditeurs, bien sûr.
Oui, bien sûr, si on le savait.
Voilà. Donc, l'idée de la paix dans le monde, évidemment, c'est quelque chose qui vous est proche.
Notre slogan, c'est pas seulement nous, hein, c'est pas de paix sans justice. C'est-à-dire, c'est bien de dire la paix, comme disait l'autre. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Ça, c'est sûr et certain.
Après,
donc, justice pour les Palestiniens, comme pour beaucoup d'autres.
Voilà, comme pour beaucoup d'autres peuples aussi qui subissent l'occupation. Dernièrement, il y a, par exemple, le peuple Ouïghour en Chine, qui a fait l'actualité. Enfin, tous ces peuples aussi subissent une oppression quotidienne. Et voilà, nous, notre but, c'est tout simplement de sensibiliser sur cette réalité. Et après, effectivement, on vous rejoint totalement sur la paix. Nous prenons une paix entre les peuples. Mais effectivement, il faut que cette paix soit aussi porteuse de justice pour les Palestiniens, dans le sens où tout ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires occupés se fait en violation du droit international, et ce depuis 67. Donc ça reste une réalité aussi en soi de droit international, qu'il y a des violations répétées par les autorités israéliennes et par les colons d'engagements internationaux qui ont été passés depuis des années. Notamment, je pense aux accords d'Oslo ou à d'autres accords, les accords de Camp David, etc., qui avaient mis un cadre strict pour une paix, une solution à deux États. Aujourd'hui, force est de constater que cette solution à deux États est loin d'être acquise et que la colonisation, voire l'occupation et les annexions se poursuivent. Donc nous, on tente d'une façon ou d'une autre de sensibiliser sur ce sujet particulier. Par l'organisation d'actions de coopération et de solidarité internationale, que ce soit typiquement ce dont on a parlé tout à l'heure, le festival de la gastronomie palestinienne, des conférences un peu plus politiques sur, comme celle qu'on souhaitait organiser dans le cadre du FSI, mais qui malheureusement a été annulée parce que c'était en fin de journée qu'on n'a pas trouvé de solution alternative. Le couvre-feu donc a été une contrainte, on n'a pas pu, mais on essaiera de la réorganiser au mois de janvier. Mais en tout cas, oui, effectivement, on prône la paix comme tout un chacun. Après, pour ce qui est de trouver votre question est très intéressante. Comment faire pour que cette paix se pérennise et qu'elle soit une réalité, et pour éviter l'escalade de la violence, etc. Bien sûr,
ça est un petit peu dans un moment critique, enfin, je trouve.
C'est assez anxiogène, mais en soi, ça dépend de chacun de nous. C'est à nous aussi de prôner le bon discours, un discours de paix sensible, etc. Auprès de nos proches et même au-delà pour que cette paix soit d'une certaine façon une réalité. Mais ça dépend surtout de nos représentants et dans quel que soit le domaine, que ce soit nos représentants politiques ou même l'éducation nationale. Enfin, il y a tellement de paramètres qu'on ne saurait, nous, se positionner en tant qu'amitié Lina Plus. Mais on vous rejoint totalement sur cette question.
Bon, là, on ne parle pas des représentants religieux. Je ne sais pas quel rôle ils peuvent jouer et si on peut les considérer comme des représentants. Mais en tout cas, voir aussi leur discours dans les lieux où ils les font, leurs discours, justement, voir s'ils sont des discours de paix, de conciliation, des discours de haine et avec une certaine irréversibilité qui s'engagerait à un moment donné. Donc voilà, la situation est très complexe. Je vous remercie d'avoir un peu éclairé notre lumière, notre espace, un peu en ce moment qui, à l'approche de l'hiver, devient un peu sombre.
Ça manque de lumière, oui.
Alors juste pour précision, parmi les intervenants qui auraient dû participer à la conférence qui a été annulée, il y avait donc Yanis Arab et Yasser Kouos. Le premier était plutôt spécialisé sur les relations entre Algérie et Palestine. Et pour approfondir, il a écrit deux ouvrages. Je vais vous les lire tout de suite, un ouvrage sur qui s'intitule « Palestine pour une paix juste », qui permet aussi pour les auditeurs, s'ils souhaitent approfondir sur le sujet, d'en apprendre un peu plus sur la situation. Et ensuite, il a écrit un second ouvrage sur les mémoires d'un jeune Palestinien. Donc voilà, pareil, ça peut donner une idée un peu de ce qui s'y passe concrètement sur le terrain. Autrement, on espère pouvoir organiser cette conférence, donc la repousser à janvier, et on communiquera à ce sujet sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est Amitié Lina Plouz, et aussi nous avons un blog. Voilà.
Voilà, on espère que l'année prochaine, les conditions feront que vous pourrez organiser. Voilà. Après, ce ne sera peut-être pas sur le thème Afrique hein, l'année prochaine. Je ne sais pas si vous aurez...
Oh, on saura s'adapter. On saura s'adapter, pas de problème.
Oui, on s'adaptera.
On va se quitter peut-être, on peut en parler, hein, de la musique palestinienne. Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce qu'elle vit bien? Est-ce qu'on l'entend suffisamment? Et sinon, pourquoi? Et est-ce que vous avez des choses à nous conseiller?
Ah ben, le trio Joubran, qui entre autres a mis en musique des poèmes de Mahmoud Darwish, et d'ailleurs on peut entendre dans le CD la voix même de Mahmoud Darwish.
Oui.
Sinon...
Il y a le trio Joubran, il y a aussi Jadayel, qui est une collaboration artistique entre, il me semble, le percussionniste de trio Joubran et un quartet français. C'est magnifique, bon après ça reste philharmonique, donc c'est une question de sensibilité, mais c'est sublime. Parmi les cantateurs, je ne les connais pas tous, mais il y en a une qui est israélienne arabe, donc palestinienne d'origine. C'est Amal Mourkous, qui est une grande, grande cantatrice que j'ai eu la chance de voir en concert à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et voilà, ça je le recommande vraiment pour ceux qui aiment les chansons un peu, les envolées lyriques. Amal Mourkous, c'est magnifique. Mm-hmm.
Ici dans la région, on a Atakafa, je ne sais pas si vous connaissez.
On a Tamazouj.
Voilà, et là on va écouter peut-être le trio Jouvran, puisque vous en parliez, hein. Jouvran. Donc, est-ce que c'est vraiment spécifique, cette musique? Est-ce que vous la... Enfin, vous êtes palestinien au départ?
Non, pas du tout. Je suis français, mais effectivement, j'ai des origines, mais plus du Maghreb, du côté de ma mère, d'Algérie.
Et est-ce qu'on a vraiment... Enfin, peut-être qu'on pourrait faire un jour une émission de musicologie sur ces musiques-là, voir...
Faudra inviter Joanne.
Ça pourrait être intéressant, oui, effectivement. Oui. On a au conseil d'administration, notre secrétaire... le secrétaire général d'Amitié Lina Plouz pourrait parler effectivement de musique. Elle est musicienne.
Voilà, puis
elle travaille avec des musiciens palestiniens.
Exactement.
Elle pourrait peut-être de Naplouz
venir jouer un petit morceau ou bien même amener sa discothèque, pourquoi pas.
Ah oui, ce sera intéressant.
Oui, faudrait lui en parler.
Et un concert éventuellement qui un jour se ferait ici, est-ce que vous pourriez le porter?
Alors, ça s'est déjà fait avec Tamazouj.
Oui. Tamazouj, ça a déjà été fait par le passé. Mmh. Après, effectivement, à l'avenir, nous aimerions organiser un concert avec Tamazouj ou même des artistes palestiniens. Mais ça s'organise.
Il y a un professeur de oud à Naplouz qui est très, très, très réputé, Habib, qui est déjà venu jouer à Lille.
Voilà, donc là, on attend que les salles de 10 000 personnes soient possibles, c'est
oui,
ça?
Oui, qu'il n'y ait plus de Covid, qu'on puisse voyager aussi.
Ben oui, quand même.
Faut pouvoir les inviter, effectivement, que les salles soient ouvertes et accessibles.
Enfin, voilà. Donc on va croiser les doigts, hein, et puis on se retrouve dès que vous le souhaitez pour parler musique ou d'autres thèmes. C'est
volontiers.
Passionnant.
Merci. Avec plaisir, merci à vous.
Très bonne journée.
Merci.
Bonne journée aussi.